picadura.
Voilà, alors dimanche dernier, c'était, je dirais, à la fois le premier dimanche de l'année et aussi le premier jour de l'année. Et donc j'étais absent et donc je profite de ce moyen-là qui m'est donné aujourd'hui pour vous souhaiter les vœux. De cette manière-là, je suis sûr de n'oublier personne. Voilà. Alors que chacun prenne pour lui personnellement ce verset de Romains, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Nous l'avons prié. Seigneur, chaque fois que nous ouvrons la parole, nous sentons petits. Et nous voulons ce matin avoir une oreille attentive à ce que tu as encore à nous dire. Je désire, Seigneur, prendre pour ma part ce que j'ai à prendre et que chacun de nous puisse, Seigneur, avoir la grâce d'en faire de même. Accompagnez-nous dans ce partage, notre Dieu. En ton nom, Amen. Alors, pour seule introduction, nous allons lire deux courtes citations extraites des écrits donc de Victor Hugo. Je vous dirai qu'en moi je porte un ennemi, le doute, qui m'amènerait dans le bois sombre, spectre myope et sourd qui, fait de jour et d'ombre, montre et cache à la fois toute chose à demi. Un serpent est visible dans la source de l'eau, et l'incrédulité rampe au fond de notre âme. Alors, de nature incrédule, point d'exclamation, point d'interrogation, affirmation ou interrogation? Alors, pour poursuivre, quelques citations qui nous décrivent cette fois non pas les convictions profondes d'un homme, si célèbre soit-il, mais les pensées de Jésus lui-même sur ce thème. Et ensuite, quelques autres textes que nous survolerons dans notre propos ce matin. Alors, premièrement, dans Marc, au chapitre 6, voici ce qu'il est dit sur ce thème. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et un peu plus loin, et il ne fit pas beaucoup de miracles. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Et un autre texte dans Matthieu précise, et il ne fit pas beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Ensuite, un peu plus loin dans Marc 16, Jésus donc avait annoncé aux disciples qu'il ressusciterait. Et pourtant, dans cet évangile de Marc, quand Marie de Magdala prévient les autres disciples de la résurrection de Jésus, nous voyons que ceux-ci ne la croient pas. Et donc, au verset 16 de ce chapitre, voici ce qu'il est dit. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru à ceux qui les avaient vus, à ceux qu'il avait vus ressusciter. Et bien sûr, il y a les différents exemples bien connus dans le Nouveau Testament de Thomas. Alors, je voudrais tout de suite évacuer la fausse idée qui consisterait à dire que En fait, Thomas est le seul à montrer du doigt, hein, que l'on puisse montrer du doigt sur ce sujet. Thomas est un exemple qui nous est laissé, et il n'est en fait que l'expression tangible de ce que contient plus ou moins les cœurs et les pensées de ses contemporains et des autres disciples. Alors, un des premiers exemples pour Thomas, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 11 donc, et puis les versets 5 à 16. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour ? Si quelqu'un marche dans le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Alors le contexte de ce passage que nous venons de lire, c'est en fait la très forte hostilité ambiante, celle des Juifs, qui étaient déterminés à éliminer Jésus. On le voit un peu plus tôt dans le chapitre 8 de ce même livre. Alors, que peut ou que pourrait nous apporter comme réflexion cette formulation de Thomas, « Allons et mourons avec lui ». S'il est évident que nous réalisons dans cette expression la fidélité de Thomas à son Seigneur, il ne nous apparaît pas que cette démarche soit une démarche de confiance inébranlable, mais qu'il s'agit plutôt d'une attitude de fatalisme et d'incrédulité quant au pouvoir de Jésus à maîtriser l'environnement menaçant. Alors cette expression « Allons et mourons avec lui » pourrait nous faire croire en une foi inébranlable qui présenterait Thomas comme prêt au sacrifice. Mais les 12 sont en fait très loin de cette manière de penser. Dans leur contexte immédiat, s'ils envisageaient la mort du Seigneur, c'était l'échec. L'incrédulité peut se transformer en pseudo-acceptation. En fait, ça n'en est pas une. Alors qu'il s'agit là seulement de l'expression par Thomas de la confession de la peur de l'échec, de la peur de l'échec du Seigneur, de la peur de leur propre échec. L'incrédulité peut parfois, ou quelquefois, se mettre derrière des paravents et ainsi jouer à l'héroïsme, jouer à la foi. Une autre situation, celle qui est décrite au chapitre 14 de Jean, que nous allons lire. Donc les versets 1 à 7. « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alors dans ce passage, nous avons deux affirmations de Jésus. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et en face de ces deux affirmations, nous avons les affirmations de Thomas, les deux affirmations de Thomas. Nous ne savons pas où tu vas. Et je n'en connais pas le chemin. Thomas n'accorde aucune crédibilité aux paroles de Jésus. Ces deux affirmations de Thomas vont même un peu plus loin. Elles semblent accuser, en quelque sorte, Jésus de dire deux choses fausses. Seigneur, tu dis que je sais où tu vas et que je connais le chemin, et ben moi je te dis je ne le sais pas. Thomas paraît quelque peu effronté dans sa réponse. Tu dis que je sais et moi je ne sais pas. Ce que je dois retenir, c'est que l'incrédulité n'est pas le fait de ne pas savoir ce que Dieu a dit, mais c'est de le remettre en question. C'est de s'y opposer. C'est ça l'incrédulité. Et c'était déjà ainsi dans le Jardin d'Éden, dans Genèse 3.15. Et notre frère Louis, dans sa prière, a fait référence à ce texte qui montre ô combien est notre compatibilité originelle. Que voulait Satan? Est-ce que vraiment Dieu a dit que tu ne devais pas manger de cet arbre? Que voulait-il dire à Satan? C'était pas simplement de poser la question si Dieu l'avait dit ou pas. Mais ce qu'il était en train de dire, que ce que Dieu avait dit, en fait, n'était pas vrai. Ou que Ève et Adam, ils n'avaient pas compris vraiment la pensée totale de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme Ève, on accompagne Adam, hein, comme Ève entre sur ce terrain de la remise en cause de ce que Dieu dit, eh bien, cela, du coup, donne à Satan l'occasion de préciser sa pensée. Hein? Tu connais pas bien Dieu. Dieu veut rester Dieu tout seul. Hein? Il veut vous empêcher de devenir Dieu. Et si vous mangez de ce fruit, vous devenez Dieu, vous aussi, voilà, c'est tout. En entrant sur le terrain de la remise en question, combien de fois je laisse la porte ouverte à notre ennemi, à celui qui nous veut du mal? Combien de fois lui laissons-nous l'accès à notre pensée, l'accès à nos décisions, à nos jugements, à nos doutes? Combien de fois? Depuis cette époque se trouve dans la chair de l'homme et de la femme, l'incrédulité. Et Victor Hugo avait raison quand il disait « Je vous dirai qu'en moi je porte un ennemi, le doute. » Que l'incrédulité rampe au fond de nous. L'incrédulité, ce n'est pas seulement l'absence de foi, mais c'est une puissance qui s'oppose à la foi. La foi, c'est croire ce que Dieu a dit. Et pas seulement ce que Dieu a dit, mais c'est de croire qu'il a raison de le dire. Et l'incrédulité, elle nous fait croire tout simplement le contraire. Soit de remettre en question la parole, soit de dire que ça n'a pas été dit, ou que ce n'est pas ça exactement qui a été dit, ou que ce n'est pas juste, ou que ce n'est pas bien, etc. Alors, quel constat ? Ben, vous et moi, nous devons nous rendre compte que nous avons tous un problème avec l'incrédulité. Comme avec l'orgueil. Vous serez Dieu. Et depuis le jardin d'Éden, tout homme et toute femme a dans sa chair ces deux constituantes, les deux matériaux de base du péché, l'incrédulité et l'orgueil. Et un commentateur a dit, la chair est constituée à la fois de briques d'orgueil et de briques d'incrédulité, et tous les autres péchés sont la filiation de ces deux péchés de base. Et je suis assez d'accord avec cette analyse. Ces deux racines-là s'expriment parfois de manière ouverte, mais également souvent de manière sournoise, qui se cache derrière des paravents. Comme Thomas, qui se cache derrière ce pseudo-sacrifice de soi-même, mais qui est en réalité l'expression de l'incrédulité cachée. Et dans le second exemple que l'on a dit, je sais où tu vas, mais je ne sais pas où tu vas et je n'en connais pas le chemin. L'incrédulité, là, elle est cachée derrière un raisonnement qui peut être un raisonnement intellectuel, hein, comme nous ne pouvons pas démontrer intellectuellement ce que tu as dit est juste, que ce que tu as dit est vrai, alors nous ne pouvons pas l'accepter, ni le croire. Combien de fois fonctionnons-nous de cette manière? Parce que notre fonctionnement, entre guillemets, intelligent, ne peut pas démontrer la parole de Dieu, alors nous la remettons en cause. Et cela, tout en ayant la certitude de fonctionner de manière extrêmement intelligente, et je réfléchis, je calcule, j'échafaude, je raisonne, je tente de démontrer, donc je pense être quelqu'un de raisonnable. Et ensuite vient donc la troisième situation qui concerne Thomas, et c'est la situation certainement qui l'a rendu le plus célèbre. Hein. Nous allons la lire dans Jean, chapitre 20, et les versets 19 à 29. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque de ses clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Thomas, c'est le disciple qui n'a pas cru à la résurrection de Jésus-Christ dès qu'on la lui a annoncée. Il a demandé à voir. Alors Thomas n'a pas cru, moins par défiance à l'égard des autres disciples, que par doute au sujet de la possibilité du fait, c'est-à-dire au sujet de la résurrection elle-même. Néanmoins, bien que Thomas ait demandé beaucoup, Jésus a satisfait à toutes ses demandes. Pour nous, même si ce récit pointe l'incrédulité, retenons la clémence du Seigneur, la bonté avec laquelle il montre ses plaies et vient en secours de ce disciple à l'esprit plus incrédule que les autres. Quelle grâce! Quelle grâce! Et rien n'arrive par hasard. On peut sans doute penser que c'était normal que Thomas soit absent, pour bien des raisons. On pourrait imaginer une raison. Si Thomas avait été là, à la première apparition de Jésus, au verset 19 que nous avons lu, Thomas aurait vu Jésus avec les autres, vu ses plaies avec les autres, ça c'est le verset 20. Et il y a de grandes chances qu'il aurait cru en même temps qu'eux. Mais le concernant, on peut penser qu'il aurait eu l'illusion d'avoir la foi. Thomas en est tenu à son refus de la vérité. Ce n'est pas que Thomas ne savait pas, les disciples étaient en train de le lui dire au verset 25. Mais Thomas s'opposait à la vérité. Et maintenant, donc au verset 28, un peu plus bas, que l'on a lu, quand il dit « Mon Seigneur et mon Dieu », Thomas croit. Et c'est-à-dire qu'il a la foi. Il croyait ce que ses yeux voyaient. Mais la foi ne vient pas de ce que nos yeux voient. Ceux qui sont heureux, Thomas, ce sont ceux qui ont cru sans avoir vu. Donc, ça ne concernait toujours pas Thomas. Parce qu'il était en train de croire parce qu'il voyait, verset 29, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Alors si Thomas ne fonctionne toujours pas par la foi seule, demain, quand il ne verra plus, quand il ne touchera plus, eh bien il sera toujours dans l'incrédulité. Si nous fonctionnons en fonction de ce que nous ressentons, de ce que nous voyons, de ce que nous touchons, de ce que nous sentons, etc., eh bien dès que l'on ne ressent plus, dès que l'on ne voit plus, alors on reste dans l'incrédulité, sans foi. Et Jésus dit, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Alors ce n'est pas une condamnation de nos sens, c'est Dieu qui nous a créés, de nos sens qui nous sont précieux, mais c'est pour nous expliquer que pour nous, les enfants de Dieu, c'est par l'Esprit que nous fonctionnons. Il nous faut une démonstration intérieure pour croire. Une démonstration qui ne vient pas de nos sens, vu, toucher, tout ce que vous voulez. Et si nos sens nous sont utiles, et ils le sont, ils ne nous feront jamais l'économie de croire avec le cœur, même si nos yeux voient. Thomas reste devant la nécessité de développer sa foi et il en est de même pour nous. Thomas a un surnom, nous l'avons lu au verset 16, Didyme, ce qui signifie jumeau. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi la Bible nous dit que Thomas, d'après son surnom, a un jumeau et puis on ne parle jamais de son jumeau, on ne sait pas qui c'est son jumeau. Alors ce que je retiens, c'est que le jumeau de Thomas, c'est moi. C'est toi. Chacun peut se mettre dans la peau du jumeau de Thomas. Nous avons besoin de comprendre que l'incrédulité est une puissance qui s'oppose à ce que Dieu dit, à ce que Dieu est, à ce que Dieu fait, à ce que Dieu promet. Et il y a tellement de craintes qui sont motivées par l'incrédulité. La crainte de ne pas être aimé, la crainte de manquer, la crainte de la maladie, de la mort, de souffrir, etc. Et tout cela parce que nous ne sommes pas arrivés à croire que Dieu nous aime. Pas arrivés à croire que Dieu t'aime à toi spécialement, spécifiquement ce matin. Pas arrivés à croire que Dieu nous protège, que Dieu nous dirige, que Dieu pourvoit, que Dieu a un projet pour moi. En un mot, que Dieu est suffisant. Et qu'il est suffisant que je le croie de tout mon être. Parce que Dieu nous aime, il va mettre devant nos yeux nos illusions pour que nous nous apercevions que nous sommes incrédules. C'est Martin Luther qui a dit, s'adressant à un chrétien quelque peu perplexe quant à la potentialité de Dieu, « Vous avez un problème. Votre Dieu est trop petit. » Quelle dimension est-ce que je donne à Dieu? Quelle est mon évaluation de sa grandeur, de sa magnificence? Quelle est l'évaluation que j'ai de son pouvoir? Quelle évaluation j'ai de son amour pour moi? Ces pensées ce matin seulement pour nous encourager à faire juste des progrès dans la foi. Je ne dois pas seulement reconnaître ma nature incrédule, mais je dois faire des progrès. Alors cette année qui commence à peine, si nous nous bagarrons pour faire des progrès dans la foi, alors Dieu nous fera faire des progrès par la foi. L'introduction de vendredi de Christian disait « C'est lui qui va le faire ». Toute la parole de Dieu nous exhorte à faire des progrès, d'aller de progrès en progrès. Elle nous invite à faire une démarche, un changement. Je refuse d'être incrédule. On peut avoir confiance en Dieu. Il va falloir se bagarrer contre notre incrédulité. Et cela, nous ne pourrons le faire que par l'Esprit du Seigneur et donc par une relation plus étroite avec lui. Le Seigneur qui comprend notre nature humaine répond sans retenue aucune à l'incrédulité de Thomas. Fera-t-il la même chose pour nous? Oui, il fera la même chose, mais il le fera différemment. Il ne nous vaincra pas ou ne nous convaincra pas par des apparitions, telles que ce fut le cas pour Thomas et ses disciples. Il le fera en nous renvoyant au témoignage de ceux qui ont vu. Il le fera en nous renvoyant à la parole reçue, à la Bible, lue et méditée entre nous, dans cette famille d'Église, ou en particulier chez vous. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie. En son nom. C'est pourquoi à nous tous, hein, qui doutons parfois, en tout cas trop souvent, ne classons pas le dossier de l'incrédulité en disant oh, je suis ainsi, rien ni personne ni peut rien. Gardons-nous de l'incrédulité qui est un frein à l'action de Dieu. Gardons-nous de l'incrédulité qui, avec le temps, nous fait basculer dans l'indifférence. Disons tout simplement au Seigneur où nous en sommes. Confions-lui, même si c'est avec force, confions-lui nos doutes. Confions-lui les pensées incrédules qui nous habitent. Les impossibilités de croire qui nous arrêtent, qui nous empêchent d'avancer. C'est là l'unique remède. Mais c'est un remède puissant, un remède qui agit. Jésus est vivant, Jésus est puissant. Alors son action qu'on pourrait croire éteinte avec sa mort, c'est en tout cas ce que craignaient les disciples, eh bien son action elle continue. Elle se poursuit à travers les siècles, ça veut dire qu'elle se poursuit aujourd'hui et jusqu'à son retour. Alors en conclusion, les apôtres, conscients de leur état, ont fini par exprimer cette demande au Seigneur. Seigneur, augmente-nous la foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Et c'est une bonne demande. Ni ridicule, ni inutile. Et en conclusion pour cette nouvelle année, ce que je vous suggère comme idée, c'est que cette demande, de manière personnelle, nous la fassions nôtre. Amen.
Dimanche prochain les jumeaux.